N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est ta... T'as dit pas un voleur aussi! Elle va porter plainte pendant qu'on y est!
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg droit devant!
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tours.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. La Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On va parler évidemment cinéma puisque vous écoutez Plan Séquence en ce samedi 4 octobre. Je suis en compagnie ce midi de Louise. Bonjour Louise.
Bonjour.
Ça va bien?
Super, et toi?
Ouais. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
D'un film que je suis allée voir au studio, pour une fois au cinéma, Bienveillance Paysanne.
Ça marche, un documentaire donc.
Oui.
Et à côté de toi, Géry, bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Ça va, merci à vous.
Très bien. Et toi, tu vas nous parler aussi d'un film que tu as vu au studio?
C'est ça, Classe Moyenne.
D'Anthony Cordier.
C'est ça, exactement. Avec Laurent Lafitte de la Comédie Française.
et pour ma part, je vous parlerai du nouveau film de Jaafar Panahi, Un simple accident, qui a obtenu la Palme d'Or en mai dernier. Mais avant tout ça, on va parler des actus. Et surtout, je présente avant tout notre invitée du jour, Elsa Long de la Cinémathèque. Bonjour Elsa.
Bonjour Solène.
Ça va bien?
Oui, ça va. Merci. Merci de l'invitation.
Merci d'être venue. Voilà, tu vas nous présenter la nouvelle saison de la Cinémathèque. On t'accueille tous les ans pour parler de ce beau programme qui s'annonce encore une fois très riche en découvertes et en redécouvertes.
Merci.
Et avant ça, peut-être quelques actus locales, Géry, que les gens pourront aller voir dans les cinémas tourangeaux.
Exactement, un agenda non exhaustif des sorties liées au cinéma. Tout d'abord, il y a une rétrospective Paul Verhoeven qui a lieu à peu près tout le mois d'octobre au cinéma CGR Centre. On commence pour la semaine du 8 octobre. En fait, il y aura plusieurs projections par semaine, d'après ce que j'ai compris. Donc la première rétrospective, ce sera Total Recall, donc sur la semaine du 8 octobre, suivi du 15 octobre par le film Showgirls, et on finit en beauté la semaine du 22 octobre avec Starship Troopers. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça, ça a déjà commencé donc, début octobre avec Basic Instinct. Il y aura peut-être encore des projections d'ailleurs de ce film. Ensuite, on passe au studio avec la 24e fête du cinéma d'animation, parce que oui, le cinéma d'animation, c'est du cinéma. donc vous allez avoir le programme, il y a tout un tas de films. Peut-être que pour les plus chanceux d'entre vous, vous avez vu l'avant-première de Darko, qui avait eu lieu hier.
Magnifique.
Apparemment, qui a été, accueilli en grande pompe, un film sur lequel tout le monde est dithyrambique. Ensuite, le mardi 14 octobre, donc toujours au studio, il y a une soirée organisée par Cyclique autour du film court, du court-métrage. Et là, ça n'aura pas lieu dans un cinéma, mais dans un bar. Et c'est organisé conjointement, donc ce sera le vendredi 10, par le festival Mauvais Tour et Radio Béton. Donc ce sera un apéro spécial Mauvais Tour. Où il y aura de nombreux quiz, notamment pour gagner des places pour le festival. Festival qui d'ailleurs dévoile petit à petit sa programmation qui aura lieu du 16 au 19 octobre. Et notamment les masterclass, il y a Alexandre Aja.
Ouais, j'ai vu les masterclass et il y a du lourd.
Voilà, il y aura notamment aussi, comme l'année dernière, un podcast enregistré en direct de Réaliser Sans Trucage. Et donc voilà, je vous invite à aller sur le site du festival ou sur les réseaux sociaux. Pour
Et la programmation, elle est dévoilée quand
Très bientôt. Et les passes sont déjà disponibles à la vente.
Il y a des passes. C'est vrai qu'on n'aura pas forcément le temps de traiter à l'antenne, parce que vous savez que maintenant on est tous les 15 jours. Mais effectivement, sur les réseaux sociaux, là, il y a tout qui se dévoile petit à petit.
Et donc ça aura toujours lieu sur les trois lieux que sont les cinémas studios, l'espace Joséphine Baker du conservatoire, donc juste en face, et au Bataillon. Voilà.
Alors, on a hâte d'y aller. Merci Géry pour toutes ces infos. On va commencer, comme on vous l'a dit, en parlant de la Cinémathèque. Peut-être tous les ans, je te pose la question, mais il y a peut-être encore des nouveaux auditeurs qui arrivent sur cette antenne. Et bienvenue à eux, si c'est la première fois que vous nous écoutez. Mais peut-être de resituer qu'est-ce qu'une cinémathèque et qu'est-ce que la Cinémathèque de Tours, puisqu'il n'y a pas des cinémathèques partout dans toutes les villes françaises.
Alors, la Cinémathèque de Tours est une structure municipale. Nous sommes deux, nous sommes employés par la mairie. Il n'y a pas beaucoup de cinémathèques en France et il y a très très peu de cinémathèques municipales. Et on est une structure de programmation et de diffusion de films dits de patrimoine. On n'a pas de salle à nous, ce qui est normal parce que la programmation n'est pas assez étendue pour ça. On projette pour la plupart des séances les lundis soirs au studio, au cinéma studio, en vertu d'un accord qu'on a avec eux, commercial et artistique. Alors on s'appelle Cinémathèque en vertu de notre histoire, parce qu'on a été, je ne vais pas me lancer là-dedans, ce serait trop long, parce qu'on a été cofondé il y a plus de 50 ans, en partie par Henri Langlois, comme étant un peu une antenne de la Cinémathèque française. Mais une vraie Cinémathèque, c'est une structure de programmation et de diffusion de films, mais c'est aussi normalement une structure muséale, musée du cinéma, avec un volet de conservation de copies, de restauration de copies, tout ça. Nous, à Tours, on n'a pas ça. Mais on a gardé l'appellation Cinémathèque. Alors après, on a d'autres missions que la mission de programmation. Mais celle qui nous tient le plus à cœur et celle pour laquelle je suis là ce matin, je pense que c'est pour parler de celle pour la programmation. Mais quand même, je le dis vite fait en une phrase, on fait aussi, on coordonne l'accueil des tournages de films qui se tournent sur Tours. Et je le signale parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Et voilà, s'il y a des gens qui tournent des films sur Tours, sachez que si vous voulez organiser votre tournage, il faut vous adresser à la Cinémathèque et nous après on dispatch à d'autres collègues de différents services municipaux et métropolitains pour mettre en place tout ça.
Est-ce que c'est à peu près combien, juste après on parlait de la programmation, mais vous accueillez combien, il y a combien de tournages qui viennent à Tours par année? Alors ça dépend des années, mais en moyenne
Alors en fait, il y a plutôt un peu moins de grands tournages, de gros tournages de séries, mais là il y en avait deux là, cet été au mois de septembre, une production Arte et une production France 3 qui nous ont bien occupés. Mais par contre, il y a énormément de petits tournages, à commencer par exemple par les tournages des étudiants de l'ESCAT. Donc ça c'est voilà, mais c'est beaucoup de micro tournages, mais il faut traiter chaque demande et voilà. Donc après tout ça c'est lié à la politique, c'est très lié à Cyclique et à la politique d'aide de Cyclique. Donc ça a un petit peu évolué ces dernières années, mais il y en a eu moins ces derniers temps pour différentes raisons, en partie liées à la politique de Cyclique, je pense. Mais là, il y a un regain, il y en a pas mal. Parce qu'en fait, Tours n'est pas loin de Paris, c'est plus facile de tourner à Tours qu'à Paris. On peut singer Paris à Tours facilement, c'est à une heure de TGV, voilà.
C'est pratique.
Parce que tourner à Paris, c'est évidemment très difficile.
Pour parler de cette programmation, peut-être dire aussi aux éditeurs comment est-ce, avant qu'on parle des films et des différents thématiques qu'on pourra retrouver, les différents focus aussi autour des cinéastes, comment toi en tant que programmatrice tu prépares ça, combien de films tu vois, tu vas dans des festivals aussi pour découvrir des films, redécouvrir, est-ce que c'est par rapport à des films que tu as envie de défendre, des coups de cœur aussi que tu as eu avant et que tu as envie de passer, comment ça se passe?
Alors effectivement, il y a une part de subjectivité, c'est-à-dire que nous programmons avec ma collègue Marlène Aubert, mais je suis responsable de la programmation, que des films que j'aime. À mon avis, il n'y a pas de mauvais films dans la programmation. Après évidemment, il y en a que je préfère à d'autres. Il y en a, ce n'est pas forcément des films que j'adore, mais je les programme parce que je pense vraiment qu'ils ont leur place dans la cinémathèque, à la Cinémathèque et dans l'histoire qu'on veut raconter un peu, parce qu'il y a plusieurs fils qui se croisent, on essaie de faire des échos. Alors, j'allais dire, chaque soirée Cinémathèque a un peu une histoire différente. La programmation, elle s'établit en fonction. Alors, combien je vois de films à peu près? Je dirais que là, 45 films. j'en vois ou revois peut-être 150. Après, j'ai aussi des envies. Alors ça, c'est intéressant à discuter, parce que, à dire, parce que j'ai aussi des envies, des choses que j'ai dans la tête, que j'ai envie de passer, parce qu'en travaillant sur tel film, ça me donne envie. Je me dis, ah ben, ça serait bien de montrer ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. Puis on ne trouve pas les films. On ne trouve pas toujours tous les films. Alors évidemment, on travaille beaucoup avec les distributeurs de films qui ressortent des films et parfois qui les restaurent, donc en copie restaurée. Donc c'est l'occasion soit de les découvrir dans des belles copies sur grand écran, soit de les revoir dans ces conditions-là. Ça dépend des publics. Donc là, c'est assez simple. Je reçois, je me promène dans les catalogues des nombreux et variés distributeurs de films de patrimoine. Et puis, je pioche dedans, si je puis dire. Et puis, il y a des soirées. En fait, ça s'établit aussi pas mal en fonction des partenariats, parce que c'est un peu dans notre ADN à Cinémathèque de Tours. On travaille beaucoup avec d'autres structures. Donc, en fonction de la thématique du partenariat, on va aller plus vers tel film ou vers ou tel autre film. Là, par exemple, ça y est, on a des nouveaux partenariats dont je suis assez contente. Enfin, on travaille avec des personnes avec lesquelles on n'a jamais travaillé. Je suis très contente de travailler avec eux. On essaye aussi de faire quelque chose d'éclectique. C'est-à-dire, il ne faut pas que toute la saison soit du cinéma américain ou du cinéma italien. Parce que c'est tellement vaste, tellement riche que de toute façon, cette année, j'ai une feuille où il y a au moins une quarantaine de films qu'on trouvait, que j'aurais bien passé. Mais je ne peux pas les passer, ça ne fait rien, je les passerai plus tard. Puis j'en ai une autre où j'ai les films dont je veux guetter la ressortie, qui ressortiront un jour. Mais voilà. Donc on essaie d'être éclectique, tant dans les genres, les époques, les cinématographies. Effectivement, le cinéma d'animation est un vrai cinéma. Et on a par exemple de l'animation cette année, pas mal. On a du court-métrage. Il y a aussi du jeune public. Il y a des ciné-concerts toujours à la Cinémathèque de Tours, plus ou moins selon les années. Cette année, il y en aura deux. On travaille aussi, cette année, on a un beau partenariat avec la Cinémathèque française. Donc un des deux ciné-concerts, programme surprise de clôture. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Puis on redécouvre, par exemple, Gilles Grangier. Là, il y a des Gilles Grangier qui sont ressortis. On n'en a jamais trop passé. Gilles Grangier, considéré comme pas terrible, petit maître français. Oui, ce n'est pas Becker ou L'Herbier. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est ressorti. Donc, je les ai revus. Il y en a 6 qui sont ressortis. Puis j'en ai choisi 3. Quoi. Voilà. Et je pense que c'est intéressant de revoir ça parce que c'est des films... qui sont vraiment bien. Et puis, on essaye aussi d'en mettre un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y a des grands classiques, des films que des gens ont vus peut-être plein de fois, mais qui peuvent avoir plaisir à revoir sur grand écran. Des films que des gens ont vus plein de fois, mais à la télé, jamais sur grand écran. Où on pense que les gens les ont tous vus énormément de fois, mais pas forcément parce qu'ils ne passent pas souvent. C'est le cas, par exemple, de Une étoile est née de Cukor ou des films comme ça. Comment dire, on ne travaille pas du tout. Moi, je ne fais pas de jeunisme dans la programmation, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes. Faut quand même, on est aussi un outil de un peu de diffusion culturelle, quand même. Enfin, voilà, d'éducation à l'image. Beaucoup de jeunes, et c'est bien normal, ils ont vu, quand on a 20 ans, on a vu moins de choses quand on a 50, viennent voir ces films pour la première fois. Et donc, ça, c'est chouette. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, une des spécificités quand même importantes de nos séances, c'est qu'elles sont toutes présentées rapidement par quelqu'un, soit par nous en interne, Marlène ou moi, soit souvent, on a des invités. On donne la parole à des invités plus spécialisés qui viennent vraiment parler de ce film en particulier. Par exemple, La Clepsydre qui passe dans 8 jours. C'est un film que je trouve génial, mais qui est complexe, qui est hyper riche. Y a un critique qui est spécialiste à la fois de Haas, c'est un film de Wojciech Haas, et de cette histoire du cinéma de la Pologne des années 80. Il va en parler très bien. Ça va être intéressant parce qu'il y a certains films qui nécessitent quand même un éclairage. Après, moi, je suis rentrée dedans, même sans tout comprendre, je suis rentrée dedans. Mais c'est un film particulier, donc c'est pas mal. Donc, il y a ça aussi. Puis, on essaye de mettre un peu... Enfin, je ne veux pas dire de tout, parce que par exemple, Stallone n'a pas de western. Alors, je sais que dans notre public, il y a 3-4 personnes qui adorent les westerns. J'en suis désolée, ce n'est pas que je n'aime pas le western, c'est que ça ne s'est pas trouvé. Mais j'ai déjà repéré pour l'année prochaine des choses. Voilà, je ne fais pas non plus une grille avec des cases où il faut qu'il y ait ceci ou cela.
Bingo.
Non, voilà. Puis ça dépend aussi des sollicitations qu'on a. C'est vrai qu'on est pas mal sollicité par les partenariats. On ne les accepte pas tous, parce que ce n'est pas toujours... c'est pas toujours opportun. Mais il y en a pas mal qui sont, à mon avis, intéressants et qui donnent... Donc cette année, par exemple, il y a une soirée court-métrage aussi.
On peut peut-être un peu brasser quelques soirées de l'année, peut-être dans la première partie, pour que ça soit frais pour les auditeurs. On parlait de partenariat. Il y a celui d'un festival, je sais à combien t'es édition, mais le festival Arrière-Cuisine.
Oui.
Et là, il y a des Claude Chabrol, j'imagine... Voilà, ça se fait. Il y a ce festival-là, il y a la ressortie de films de Claude Chabrol, et tu te dis, tiens, ça pourrait matcher, quoi.
Ça. En fait, Arrière Cuisine, c'est un festival en plus porté par des collègues de la ville, donc on travaille ensemble. C'est pas toujours évident, en fait, de trouver des bons films de patrimoine qui ont un rapport avec l'alimentation. Mais là, quand j'ai vu que les Chabrol ressortaient, en fait, j'y avais pas pensé tout de suite pour Arrière Cuisine, mais je me suis dit, moi, j'adore Chabrol. J'ai vu que 12 Chabrol ressortaient. Bon, alors après, ils sont beaucoup passés, mais je me suis dit, Chabrol, les scènes de table, chez Chabrol, elles sont importantes. Donc ça tombait bien. Et d'ailleurs, pour la deuxième soirée, qui est que la bête meurt, on reçoit Cécile Mestre Chabrol, qui est une des filles de Chabrol, mais qui a été son assistante, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui a fait un documentaire qui est intéressant sur lui. Donc ça va être une belle soirée, parce qu'elle, elle va parler très bien du travail de Chabrol, quoi. L'année dernière, c'était Louis de Funès. Bon, cette année, c'est moins drôle, c'est Chabrol. mais c'est vraiment très bon. Puis effectivement, je les ai revus au Festival de La Rochelle, où je vais, enfin pas tous, mais ces deux-là, je les ai revus. Bon, je les connaissais, bien sûr, mais c'est vrai que c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment bien.
Et puis le boucher, alors je l'ai vu, moi, pour la première fois cette année, je ne l'avais jamais vu avant. Et la modernité dans la mise en scène, dans ce que ça dit, il y a une scène notamment sur le consentement qui a été écrit dans les années, du coup, en 69, et vu avec nos yeux de 2025, on fait waouh, ok.
Bien sûr, c'est très impressionnant. Et puis, par exemple, tout le début, la scène du mariage, c'est un témoignage sociologique de la France rurale de cette année, de ces années-là, quoi. Et puis, bien sûr, Stéphane Audran, qui est quand même. Moi, c'est une comédienne que j'aime énormément, qui est étonnante. Et puis, Jean-Yann, qui est dans les deux films, qui s'est prêté très, très bien à ces deux rôles vraiment pas flatteurs. Enfin, je veux dire, de salopard, on peut le dire. Mais c'est très intéressant. Moi, je crois qu'à la Cinémathèque du Tour, on n'a jamais passé de film avec lui. Donc, il y a ça aussi, passer des choses qu'on a... qu'on n'a pas passé. Bon, le cinéma est tellement vaste que ça va. J'ai pas peur de manquer de... Surtout qu'il y a beaucoup de films qui ressortent. Et notamment, tu parlais du consentement. Par exemple, on a encore un cycle femmes cinéastes. On le fait depuis un moment. Et même, c'est pas pour me paraître présomptueuse, mais avant vraiment que ce soit dans l'air du temps. Mais il se trouve que maintenant, ça l'est. Mais c'est pas péjoratif. Ça permet de redécouvrir des choses qui étaient oubliées. Donc, par exemple, un film de Margaret von Trotta qui ressort, là, qui s'appelle L'Ami, qui est vraiment... Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert, là, je ne l'avais jamais vu. Il est impressionnant de comment, avec subtilité, mais avec radicalité, on est au début des années 80, comment le regard qu'elle porte sur la société patriarcale. Ce n'est pas nouveau, en fait, mais c'est très intéressant. Donc, c'est le nouveau cinéma allemand, tout ça, des années 70-80. Un film polonais aussi. Alors ça, c'est une rareté. Ça, c'est un partenariat avec l'Institut culturel polonais de Paris. Ça, c'est un film que je pense très peu de personnes ont vu sur Tours. Je serais étonnée. D'une femme, Barbara Sass, qui est complètement inconnue. Et là aussi, l'intérêt, comme von Trotta, c'est pas parce que c'est une femme que c'est intéressant, c'est parce qu'elle a un regard, elle parle de la condition féminine. Et donc, c'est une jeune femme dans la société polonaise des années 80 qui va qui va vouloir vivre de façon très émancipée, très moderne, comme pourrait l'être une jeune, vouloir vivre une jeune Française en 2025. Sauf que c'est la Pologne des années 80, donc c'est encore un peu plus compliqué avec d'autres enjeux. Et d'ailleurs, c'est un personnage complexe parce qu'elle est un peu prête à certaines choses pour acquérir sa liberté. Et c'est formellement un film très beau. Enfin, cette actrice n'est pas connue. Elle crève l'écran, vraiment. Enfin, bon, voilà.
Et le film s'appelle comment
Sans amour.
Sans amour.
Ouais. Je ne sais plus quand, c'est au printemps. Alors, sinon, oui, je vais sur le début de l'année. Alors, ça fait l'objet de notre visuel de saison. En fait, on a, l'année dernière, notre cycle principal, mais en fait, c'est 6 films sur 45, c'était le rock. Cette année, c'est la boxe. Pourquoi la boxe? Alors, c'est très subjectif, parce que moi, ça fait longtemps Je trouve que le sport et la culture, le cinéma, ça ne s'oppose pas. Sauf que sport au cinéma, c'est trop vaste. Donc cette année, j'ai choisi la boxe. Alors j'ai eu des frustrations parce que, par exemple, Gentleman Jim de Raoul Walsh, qui est un immense film que j'adore sur la boxe et tout, dans lequel il y a des films... Ce n'est pas des films sur la boxe, c'est que la boxe, c'est le prétexte à parler d'autres choses. C'est pour ça que ce sont des bons films, ce n'est pas des films que sur la boxe. Voilà, Gentleman Jim, ce sera, j'espère, pour une autre année. et puis, tu vas parler du Panahi. En fait, on s'est rendu compte, il y a aussi presque un focus assez important sur l'Iran. Parce qu'il y a un hommage à Panahi. On voulait... moi, c'est quelqu'un que... Enfin, je ne suis pas la seule, que j'admire énormément. C'est fait partie de ces personnes qui réconcilient un peu avec l'humanité, quand même. Lui et puis ses films. Et donc, on passe deux films de lui, Taxi Téhéran. Donc ça, c'est notre film le plus récent. Là, c'est le film plus récent, voilà, en Cinémathèque, mais on a un film de 2015, on a aussi des films des années 30. Bon, voilà, c'est bon. Je me suis permise. J'ai le droit, légalement, j'ai pas le droit de passer des films qui ont moins de 5 ans. Okay. Sauf s'ils sont pas distribués, s'ils sont inédits, voilà, et si ça raconte quelque chose qui a sa place, quoi. Et puis, on a un ciné-concert pour les enfants, enfin, en fait, tout public, dans le cadre de Planète Saturne en février. C'est un programme de court-métrage d'animation iranien, d'animation iranienne, enfin, des court-métrages iraniens, très beau, et qui pose, c'est pour les enfants, mais qui pose des questions vraiment... et c'est des films des années 70, mais qui pose vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est qu'être libre, à quel prix... Quel prix aussi on peut payer pour la liberté, donc très bon, voilà, assez philosophique, mais pour les enfants. Et puis il se trouve qu'on a un nouveau partenariat. On a proposé une carte blanche via nos collègues de la cohésion sociale à des jeunes de l'Assemblée des jeunes citoyennes et citoyens, en gros des jeunes du conseil municipal des jeunes, ce qu'on appelait avant le conseil municipal des jeunes, mais maintenant on appelle ça comme ça. Et donc on a fait un peu des ateliers de programmation avec eux, c'était très intéressant. Et donc un atelier guidé, évidemment, voilà, mais ils ont bien compris ce qu'on faisait, qu'on n'allait pas passer, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais qu'on n'ait pas passé un film d'il y a 2 ans, ou voilà. Et dans l'entonnoir, après laisser voilà, ce qui est ressorti, c'est Persepolis de Marjane Satrapi. Donc aussi, là aussi, ça parle de l'Iran, quoi. Donc finalement, c'est boxe et Iran. Mais il y a énormément d'autres choses, les Grangiers, Coris Maki aussi, je suis très con. Là, c'est...
Puis une soirée court-métrage, enfin, il y a aussi un focus sur le festival...
Du court-métrage de Tours. Qu'en fait, Donatien Bazani, c'est un écrivain, historien, fidèle de la Cinémathèque, un ami. C'est quelqu'un qui est venu en stage chez nous il y a longtemps et qui avait fait un travail universitaire, encadré à fois par nous puis par l'université, sur cette histoire du grand festival, enfin du festival du court-métrage de Tours, qui était le grand festival, un immense festival. À une époque où il y avait très peu de festivals aidés par l'État public, il y avait celui de Tours pour le court-métrage, celui d'Annecy pour l'animation et Cannes pour le long métrage. Et en fait, son travail, Donatien, il a tellement bien travaillé, on a tellement bien travaillé ensemble, son mémoire est devenu un livre. Et puis, Bah ça fait 15 ans déjà cette histoire, puis bah c'est toujours un complice, un ami de la Cinémathèque, Donatien. Et il m'a dit, bah, moi je ferais bien un nouveau focus sur cette histoire, parce que depuis 15 ans, bah, voilà, pour refaire connaître cette histoire. Et donc on a une soirée avec 4 courts-métrages, voilà, il parlera de cette histoire. Un festival très important, il s'est passé énormément de choses ce festival. Les premiers Césars, c'est ici, là, voilà.
Et puis quand tu vois les noms de ceux qui ont diffusé leur court-métrage à ce festival-là, ils ont tous après fait carrière quasiment.
Enfin, ah bah, presque tous. Et puis Polanski, bon alors ça ouvre d'autres débats maintenant, Polanski, mais on ne peut pas dire qu'il n'ait fait que des mauvais films, je pense. Il a été, en fait, il a reçu, c'est parce qu'il a eu un prix au court-métrage, officiel court-métrage de Tours, qu'il s'est dit qu'il allait continuer dans le cinéma. C'est Jacques Demy et Varda sont rencontrés là, ont été primés là. Robert Enrico, là, il y a un film de Robert Enrico qui a été primé. Bon, en fait, les quatre films ont en commun d'avoir été primés. Alors, et c'est que des, voilà, le film de Karel Reis aussi, le Free Cinéma anglais. Oui, il y avait énormément de monde qui sont passés par là et ça a donné ça a mis le pied à l'étrier d'énormément de gens qui sont devenus des grands réalisateurs. Ousmane Sembène aussi par exemple qui est passé là, et là je fais un lien avec le partenariat qu'on a avant avec dans le cadre du centenaire de Paulin Soumanou-Viera, qui est en fait un pionnier totalement méconnu, enfin très peu connu, du cinéma subsaharien, du cinéma africain. Il se trouve que... Enfin, je suis un peu longue.
Non, voilà. Vas-y.
Il se trouve que Stéphane Vieira, qui s'occupe du B4, du bimestriel du cinéma africain de Tours, donc est tourangeau. C'est le film de Paulin Soumanou et il a à cœur, enfin, il a fait restaurer son œuvre, il l'a fait conserver, mais c'est d'ampleur internationale. Les films sont conservés en Indiana, aux États-Unis. Et donc, il y a une soirée cinémathèque consacrée à ce centenaire avec des films de Paulin Soumanou-Viera qui vont passer, Stéphane Vieira qui va raconter qui était ce monsieur. Et bon, c'est assez intéressant. Et là aussi, c'est par rapport à l'histoire coloniale, c'est très moderne. On va voir aussi, il y a des raisons complexes et multiples. C'est le cinéma subsaharien, enfin, dans certains coins d'Afrique, c'est peu développé, c'est pas sans raison, mais il existait quand même, et donc on le redécouvre. Et donc on a fait un lien avec Sembène, parce que Sembène était donc un peu plus connu, Ousmane Sembène, sénégalais, cinéma sénégalais, donc ça me plaît beaucoup, parce que c'est rare qu'on passe du cinéma de l'autre côté de l'hémisphère. C'était un grand ami de Vieira. Et puis pourquoi j'y pense, oui, parce qu'en plus Sembène, bah lui, il est venu au festival du court-métrage de Tours et il a fait un court-métrage qui a été primé à Tours aussi, qu'on passe pas là parce qu'on le trouve plus, mais enfin voilà. Et il y aura Alain, alors c'est marrant parce qu'en plus il sort de filiation, parce que pour Paulin Soumanou-Viera, donc ce sera Stéphane Vieira qui va venir parler de l'œuvre de son père, et puis Alain Sembène viendra parler de l'œuvre de Ousmane. Et La Noire 2 de Ousmane Sembène est un film qui ressort, là, restauré, pareil, hein, moi que je ne connaissais pas, hein, et que j'ai découvert, mais c'est une splendeur, et c'est pareil, on se dit, sur tout ce qui est les thématiques du racisme, de l'intolérance, du comment vivre ensemble, on est dans les années 60, et c'est déjà très... Vous avez déjà analysé beaucoup de choses, quoi. Les thématiques, finalement, ne changent pas énormément. Et visuellement, c'est absolument magnifique. C'est un très, très beau noir et blanc. Voilà.
Ça donne envie d'aller voir tous les films, là. donc c'est le lundi soir. De toute façon, la plaquette, enfin le programme est disponible déjà au studio.
Oui, au studio et puis en bibliothèque. Et puis on va s'atteler à la diffuser encore plus largement. Il me reste des cartons au bureau. Et sur cinémathèque.tour.fr. Puis on a aussi on est sur Facebook aussi. Et puis sur Instagram.
Puis bientôt sur TikTok.
à voir.
Tu avais une question, Louise.
Que je vois derrière, il y a les tarifs, parce qu'on n'a pas trop parlé de tarifs.
Oui.
Et moi, en étant étudiante et ayant le PCE, je parle aux gens aussi.
Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, tu fais bien.
Merci.
Les séances sont à 3 euros, donc... C'est vraiment un tarif incroyable.
Oui, c'est pas cher. Et puis alors, il y a une espèce de... Parce qu'on a des soirées de films, pour les gens qui, si on a envie, voilà, c'est des fois. Et là, on casse encore plus les prix, c'est 5 euros les deux films pour des étudiants. Donc, bah, merci de le dire, si j'avais oublié. Et effectivement, je pense qu'il y a un public étudiant qui écoute Radio Campus. Oui, on a une grille. Bah, c'est la grille tarifaire des studios. Et pour le PCE, alors, je ne sais même plus trop pourquoi, on est encore un peu moins cher. Mais voilà, oui. Bah, de toute façon, j'invite tous les étudiants à prendre le PCE. Hein.
Ah oui.
Et c'est, ça, c'est, il serait idiot de ne pas le prendre. Hein. Ouais.
Et j'avais juste une question en plus. Je ne sais pas si c'est lié à la Cinémathèque, mais au CCCOD, il y a quelques temps, il y avait eu le film Le Voyage à travers la Lune.
Le Voyage dans la Lune.
Le Voyage dans la Lune, qui a été mis en, dans le CCCOD. Et je me disais, est-ce que c'était une version de la Cinémathèque parce que ça m'était que c'était restauré et tout ça. Est-ce qu'il y a un lien?
Alors non, quand le CCCOD a passé donc ce Méliès là, vraiment des origines du cinéma, c'était pas avec nous. Mais c'est pas grave. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé avec le CCCOD, ça viendra peut-être. C'était pas nous, mais ça nous est arrivé, oui, de faire des programmes Méliès. Bien sûr. Oui, oui, bah, de toute façon, le patrimoine, mais c'est très bien. Comme on redécouvre, surtout depuis la numérisation des films, on redécouvre des choses. Il y a de plus en plus de films qui ressortent, qui sont restaurés. Peut-être qu'aussi qu'on se rend compte. Il y a des bons, je vais pas avoir le discours, il y a que des mauvais films qui sortent aujourd'hui, hein. C'est complètement faux. Mais c'est vrai qu'on redécouvre aussi l'immense qualité de films anciens, vieux entre guillemets, et du coup ça, il repasse pas mal en différents endroits. Mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas, on n'a pas la, comment dire,
le monopole,
merci, du patrimoine, et puis c'est tellement riche que c'est très bien que ça passe ailleurs.
On l'a vu, le festival Play It Again, qui est un festival national à travers les cinémas français. J'ai lu un article pas plus tard que ce matin où il y avait en moyenne, à ce festival-là, au mois de septembre, à peu près 100 personnes par cinéma. Donc ça veut dire que le patrimoine, c'est quelque chose qui plaît peut-être plus, effectivement. On l'a vu, hein, les entrées en ce moment sont vraiment catastrophiques dans tous les cinémas français. Enfin, la baisse, elle est en général de 16% là, depuis le début de l'année, donc c'est vraiment pas bon. Mais parce que le marché n'est pas forcément florissant. Enfin, il y a des bons films, on en parle régulièrement, mais de là à faire attirer vraiment un public large, on n'est pas, il n'y a pas de locomotive en fait. Donc les films par contre de patrimoine, effectivement, là on voit qu'il y a un engouement sur certains titres et ça peut faire venir les gens dans la salle de cinéma. Donc déjà ils font le déplacement pour aller dans la salle.
Parce que c'est vrai que paradoxalement il y a des films sortis il y a quelques années qui fêtent leur anniversaire. Je pense par exemple à, c'est pas vraiment un film d'auteur, mais Astérix Mission Cléopâtre qui a fait salle comble dans plusieurs salles de France. Pour plusieurs projections, dont un tour.
Pourtant, c'est un film qu'on peut voir et revoir assez facilement. Et pourtant, il y a quand même un engouement, quoi.
Ouais. Et puis, c'est vrai que il n'y en a pas tant que ça dans la programmation là, mais après, il y a des films qui ont plus de 100 ans qui sont vraiment tellement étonnants de modernité, de la fin du muet et tout. On se dit. Moi, après, c'est vrai, il y a quand même des films que j'ai du mal à voir quand je vois ça et tout. Mais encore une fois, par exemple, je n'ai pas vu le dernier Panahi, mais je vais y aller. Évidemment qu'il y a encore des très grands artistes. Mais,
oui, on redit d'aller voir Cirade, par exemple, qui est vraiment sidérant. En film d'animation, Arco, dans quelques semaines, pareil. C'est vraiment des super propositions.
Mais les jeunes, j'incite surtout les jeunes, mais enfin surtout par exemple ceux qui feraient des études du cinéma aller voir le plus de films possible. Et c'est vrai, des grands classiques, ça se rate pas, quoi. Enfin, parce que ça fait partie de la culture. Faut savoir que tous les gens là dont on programme des films, même si les écoles de cinéma n'existaient pas forcément, c'est que des gens qui voyaient beaucoup de films, qui avaient une culture cinématographique énorme, quoi.
Et après, on n'est pas obligé effectivement de voir tous les films, mais par contre de voir des films, en fait, peu importe le film, mais d'aller voir des films et pour nourrir l'imaginaire et après la créativité dans le fait d'écrire après d'autres films.
C'est ça.
Mais il faut voir des films.
Ben c'est ça. Et puis si possible, si on peut, enfin, bon, je vous encourage quand même à rester au débat, discussion après, parce que surtout quand on a des invités, c'est quand même souvent assez intéressant. Je trouve ça aussi, ça forge, mais même moi, hein, des fois, je connais pas tout, ça fait un peu de la formation, quoi, permanente. Et puis, Et puis, voilà, des gens qui parlent de leur métier. Quand on reçoit un chef opérateur, il parle de son métier et tout. C'est intéressant. Non, je dis ça parce que on a beaucoup de jeunes à la Cinémathèque, c'est très bien, mais souvent, ils ne restent pas au débat. Bon, alors pour différentes raisons, hein, je peux comprendre. Mais des fois, après, ils me disent « Oh, madame, ah, le film, on l'a adoré, on s'est dit ça, ça, ça et ça. » Je dis « C'est dommage que tu ne sois pas restée le dire et en plus, t'aurais trouvé, ça t'aurait intéressé d'entendre la personne. » Bon, voilà. Après, on prend personne en otage, personne n'est obligé de rester. Moi, des fois, après un film, je suis la première à avoir du mal à en parler. Mais voilà, bon, c'est un autre débat. Le débat.
Eh ben, on te remercie, Elsa, d'avoir répondu à nos questions. On va passer une musique de Raging Bull, du coup, le film de Scorsese avec Robert De Niro, qu'on pourra voir à la Cinémathèque cette année. C'est parti.
Merci.
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et pour votre émission Plan Séquence. Et tout de suite, je laisse la parole à Géry pour nous parler de Classe Moyenne, le nouveau film d'Anthony Cordier. Un tour en joue, je crois, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc, Classe Moyenne, c'est un des films que j'étais voir cette semaine. J'ai également vu le Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre. Tout le monde est dithyrambique, je vous invite à le voir. Mais je voulais plutôt m'intéresser à un film moins connu, en tout cas internationalement. C'est le film Classe Moyenne donc, d'Anthony Cordier. On retrouve notamment Laurent Lafitte dans les rôles principaux. Donc Laurent Lafitte de la Comédie Française. Élodie Boucher est également un acteur qui vient de la sitcom, qui fait son retour depuis quelques années. C'est Ramzy Bedia. Oui, Ramzy, de Eric et Ramzy. Qui, je trouve, est de plus en plus dans la comédie sociale, même si je trouve ce terme galvaudé. Donc en fait, de quoi parle Classe Moyenne? C'est l'histoire de Mehdi, qui est un étudiant avocat. On devine qu'il vient justement de la classe moyenne, qu'il est d'origine, enfin que ses parents sont d'origine immigrée, mais que pour autant il est bien installé en France et il souhaite passer ses vacances d'été chez ses beaux-parents, donc les parents de sa petite amie, qui eux sont vraiment d'une classe très bourgeoise, avec un père avocat d'affaires et une mère qu'on devine actrice, mais un peu sur le déclin, mais qui garde pour autant son statut bourgeois. Et donc tout va bien jusqu'au moment où les gardiens, qui sont en fait les voisins de ses parents, voilà, qui entretiennent leur maison, il va y avoir un conflit entre ces deux classes sociales, donc c'est-à-dire entre une classe de prolos et une classe de bourgeois. Donc, comme vous pouvez le deviner, c'est voilà, un film qui traite de la classe moyenne, mais aussi quelque part de ce qu'on appelle le phénomène des transfuges de classe, donc qui est incarné là par Mehdi, qui est le personnage principal. C'est pas la première fois hein, que voilà, on oppose deux castes de la société au cinéma. Je pense par exemple à Barbac, j'ai oublié son nom. Barbac.
Oui, j'ai perdu le.
Voilà, le film Barbac avec.
Ouais. J'ai perdu.
Moi aussi. Et encore plus anciennement, on peut aussi penser à La vie est un long fleuve tranquille. Voilà, donc c'est pas la première fois. Là, j'ai l'impression que la nouveauté, ou en tout cas le message proposé par le film, c'est de présenter quelqu'un qui fait office d'intermédiaire entre ces deux classes. Donc l'idée est bonne. Alors c'est un film, c'est une comédie, clairement, qui a l'air de plutôt bien fonctionner, puisqu'il y avait, quand je suis allé voir, en tout cas, il y avait sale comble. Personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment à voir le film, et je trouve qu'il me manque forcément un peu d'originalité. Pas seulement par le thème choisi, mais aussi certains gags, certaines scènes qui sont assez téléphonées, qui sont assez prédictibles. Et c'est un film qui a été, j'ai l'impression, montré comme politique. Moi, je suis un peu plus mesuré sur ce film, même si je le conseille, si vous voulez passer un bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage, enfin le point fort du film et son point faible, c'est un peu de taper sur tout le monde. Ouais. Et en fait, en tapant sur tout le monde, il ne va pas forcément prendre parti. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un film politique.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Je vous laisserai faire votre propre idée en le voyant. Et aussi, manque d'originalité. Donc, c'est quelque chose de plutôt bien filmé. Mais on n'est pas époustouflé par la mise en scène. Ça reste quand même beaucoup de plans fixes. Sur une durée aussi assez classique, puisque c'est un film d'1h35.
Mais là... Pardon, oui, vas-y, excuse-moi.
Que je vous dis, on passe pas un mauvais moment, mais pour moi, je trouve que ce film a été un peu surévalué, survendu. Donc je le conseillerais modérément, sauf si vous n'avez rien à voir. C'est quand même, il y a quand même quelques éclats d'air qui s'en échappent, mais voilà, un peu mitigé.
Ouais, je suis d'accord. Par contre, j'ai bien aimé celui qui fait l'acteur qui fait le jeune, enfin l'apprenti avocat, quoi. J'ai trouvé vraiment Amélie vachement convaincant. Par contre, dans son rôle, bah, les acteurs d'ailleurs sont assez convaincants. Oui. Hein. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi dans le sens où, à la fin, je me dis, ok, quelle est la vision vraiment de ce qu'il veut. En fait, c'est un peu un statu quo, quoi. Où tout le monde en prend un peu pour son grade. Il y a assez nihiliste au final, d'ailleurs, le film. Et j'étais un peu déçu en me disant, ah ouais, ok, ça finit. Enfin, on va évidemment pas vous raconter comment ça finit, mais ok, ça finit. Mais moi, j'aurais pas, prends une position claire, parce que là, elle est pas claire et nette, ta position.
Et ces nihilistes sont pour autant avoir un humour acerbe.
Ouais.
Pour moi, c'est pas quelque chose qui est un film qui restera, en tout cas.
Non, ce que tu rigoles pas... Enfin, la bande-annonce aurait pu se dire, tiens, ça va être vraiment acharné. Enfin, leur calamie dans la bande-annonce, tu sens qu'il y a... Et en fait, dans le film, bon, tu passes, je me suis pas ennuyé, mais je sais pas, il y a quelque chose que je trouve pas forcément un grand film, quoi. Mais après, c'est qu'un avis, et évidemment, on vous dit de faire le vôtre, là.
Je pense que c'est le film parfait qui passera sur les plateformes France TV d'ici quelques mois. C'est vraiment cette cible, j'ai l'impression.
Oui, complètement.
Voilà, c'est dommage. Après, c'était peut-être le parti pris du réalisateur.
Ouais. Dans le sens où c'est trop inclusif.
Sans en dire trop, en fait, voilà. Il va vouloir... montrer les travers de toutes les classes sociales, y compris de Mehdi, qui est le transfuge de classe. Et en fait, il ne va pas prendre de position.
Mmh. Ah, d'accord.
Tout le monde, effectivement, est con. C'est pas clair, quoi. Clair et net. Et en parlant de position, Louise, veux-tu nous parler de ta soirée de jeudi soir de bienveillance paysanne?
Eh bien, oui, du coup, je suis allée à un cinéma débat... sur le film Bienveillance paysanne, organisé par le CNP, donc le Cinéma National Populaire, avec la Confédération pardon, paysanne Terre de Liens et les amis de la Compagnie paysanne, qui ont présenté Quelle paysanne, quel paysan pour demain, avec le film Bienveillance paysanne. Donc, je vais vous lire le synopsis du film avant. Déjà, c'est un film qui est sorti en 2023 et c'est un documentaire qui dure 1h35 d'Olivier Dickinson, qui est un journaliste, reporter et réalisateur de films. Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauffement climatique et tant d'autres maux imputés à l'élevage. L'animal de ferme, notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l'ennemi numéro un de la vie sur Terre ? Le documentaliste Olivier Dickinson a voulu le vérifier en parcourant la France à la rencontre d'éleveurs et d'éleveuses, adeptes de pratiques vertueuses. Il et elle ont choisi de replanter les arbres et de développer d'ingénieuses collaborations animales pour laisser une empreinte plus douce et contribuer à la sauvegarde de notre planète. Donc bon, je vous avoue que je suis allée voir ce film, mais moi-même j'étais étonnée d'aller voir ça, parce que c'est pas un sujet qui me passionne énormément, l'agriculture. Et c'est sur les conseils d'un ami. Et j'ai été étonnée parce que ce film, j'ai trouvé assez intéressant, dans le sens où, pour une fois, c'était une vision assez positive de l'agriculture. Il y avait en effet plusieurs personnes qui parlaient avec différentes visions de leur travail et qui semblaient hyper intéressées. C'était presque un métier passion. On voyait beaucoup d'images où les agriculteurs, ils caressaient leurs animaux, tout ça. Mais justement, c'était peut-être une vision un peu trop bucolique, j'ai trouvé aussi, et très très poétique. Et c'est justement le débat après qui, comment dire ça, est un petit peu parti
en cacahuète.
Ouais, on va dire ça, parce qu'il y avait un monsieur qui était invité, monsieur A. Selos, président au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui est disons très démonstratif et très
virulent,
très virulent sur certains mots. Donc la partie film était intéressante, mais la partie débat encore plus, parce qu'il y avait des gens de la ville de Tours et des agriculteurs, agricultrices, maraîchers qui, eux, avaient une vision totalement opposée à ceux de la ville qui voyaient le film justement un petit peu poétique, joli, tout ça, tout beau, tout rose. Et eux qui disaient « Oh, ben, il n'y a même pas la notion d'argent », que eux, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc le débat était vraiment très, très mouvementé. Et moi, ça m'a permis de m'ouvrir sur un sujet que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, je vous conseillerais quand même de voir le film, parce que c'est toujours intéressant de savoir où on en est au niveau des progrès de l'agriculture raisonnée, et parce que ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des gens qui ont envie de faire changer les choses.
Voilà. Je t'encourage les gens après avoir un débat, après le film.
Peut-être un petit peu moins violent, parce que moi, ça m'a vraiment, vraiment perturbée. C'était très fort, on va dire ça comme ça.
Et ben merci pour ce témoignage, Louise. Et on va finir, je vais vous parler de la Palme d'Or, donc le nouveau film de Jafar Panahi, Un simple accident. C'est une œuvre que j'ai trouvée assez puissante. Ça mêle de la politique, de la tension, de l'humour aussi. Le film commence par une simple panne assez banale, un simple accident, d'où le titre du film. Il y a le propriétaire de la voiture qui est père de famille, va faire réparer sa voiture dans un garage assez proche. Et puis là, Vaïd, qui est appelé la cruche, croit reconnaître en fait la voix de son bourreau. Alors il va décider en fait de le kidnapper. Et puis le film, en fait, après, c'est comme un peu un film à suspense, parce que est-ce que c'est vraiment lui qui était son bourreau en prison ? Ou est-ce qu'il s'est fait un film parce qu'il est obsédé par ce qu'il a vécu là-bas. Le film, il interroge, je trouve, la violence systémique de l'Iran, questionne sur ce qui... En fait, si un ancien prisonnier retrouvait un de ses bourreaux, qu'est-ce qui se passe, en fait, une fois dehors ? Est-ce que la vengeance, elle se traduit par la mort de ce bourreau, ou alors, par humanité, on ne va pas tuer quelqu'un qui nous a fait des sévices. Enfin, le film interroge là-dessus. Donc il faut savoir que Jafar Panahi a eu du mal à tourner ce film, comme de nombreux films, j'y reviendrai. Il a été réalisé sans autorisation. Il lui était nécessaire, pour lui, qui a vécu l'enfer des jolies iraniennes, de parler de ça et de parler du traitement réservé aux opposants politiques de ce pouvoir dictatorial. Et je trouve le film assez brillant. Donc Jafar Panahi, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, grand réalisateur iranien, auteur des films Le Ballon Blanc, Hors-Jeu, Taxi Téhéran, on parlait tout à l'heure, en 2015, ou encore Trois Visages et Aucun Ours, c'est son dernier film. C'était l'assistant réalisateur à ses débuts d'un autre grand cinéaste iranien mondialement connu, Abbas Kiarostami. Il a remporté d'ailleurs pour son premier film Jafar Panahi la Caméra d'Or à Cannes. Et puis après, il a eu tout ce qu'on lui connaît. Mais sa vie, elle a été, comme de nombreux réalisateurs iraniens, parsemée d'embûches. Il a été condamné de nombreuses fois par le régime iranien, notamment pour propagande contre le régime. Il a été plusieurs fois en prison. Et c'est d'ailleurs en détention que lui est venue l'envie de faire ce dernier film. Il s'est senti, comme il dit, je cite, « Je me suis senti obligé de faire un film aussi pour ceux que j'avais rencontrés en cellule. Je leur devais ce film-là. » Donc voilà, comme j'ai dit, le départ du film, elle est là. Il s'est entouré d'anciens prisonniers pour écrire son scénario. Et on ressent vraiment une authenticité. Il y a différents personnages dans le film. Hein, tout le monde n'est pas forcément pour faire quelque chose à cette personne qu'on a kidnappée. Mais le film, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, quoi. Et je trouve le film assez intelligent parce que Panahi, il parsème vraiment son œuvre. Il y a plein d'humour. Il y a évidemment l'absurdité du régime. Le film est très précis dans l'écriture. On a plein de personnages, mais qui incarnent à la fois la détresse, la volonté de revanche, et en même temps, il y en a qui sont remplis de résilience et emplis d'humanité. Ce mot dont, évidemment, le régime iranien est démuni. Hein, ils sont démunis d'humanité. Le film aussi a un super rapport au son dans le film, dès le début, parce que en fait, donc je vous raconte juste ces débuts du film. Donc on comprend qu'il a reconnu une voix, ce fameux Vaïd, la voix de son bourreau, enfin potentiellement son bourreau. Et en fait, nous, on ne voit pas du tout cet homme-là, quasiment pas. On va juste voir sur notre écran Vaïd, qui va être saisi happé par cette voix et qui comprend qu'il est c'est de son bourreau. Et on comprend juste ça. Donc c'est toute la puissance du hors-champ, elle est dans cette séquence-là, comme de nombreux films. Mais là, on voit la puissance du cinéma pour nous faire procurer des émotions. Donc voilà, c'est un film assez important sur ce qui se passe aussi là-bas. Un film en tout cas pour témoigner et puis pour montrer qu'on n'oublie pas ces récits. Et puis le cinéma, il est là aussi pour questionner le monde. Et tenter à travers des destinées d'y trouver potentiellement des réponses. Entre celui-là, Sirat, quelques semaines, je trouve que c'est des films vraiment, encore une fois, importants et qu'on n'a pas vu forcément avant. Il y en a déjà eu des films politiques, mais je trouve que là, vu qu'il y a aussi plein de scènes avec beaucoup d'humour, on se surprend à sourire dans le film, alors que là, il y a beaucoup de gravité. Donc je vous encourage à aller le voir si vous voulez vous faire aussi votre avis. Puis toujours, peu importe ce qu'on pense des Palmes d'Or, c'est des films aussi à voir. Et le film, je rappelle, a été sélectionné pour représenter la France aux prochains Oscars, puisque le film a été en partie tourné, alors pas en France, en Iran, mais sur des fonds français avec l'aide du CNC notamment, du Cinéma du Monde. C'est au studio.
Super.
Et j'ai complètement oublié dans mon agenda aujourd'hui à 16h45 une séance unique du film La Dernière Piste de Kelly Richards au cinéma studio.
Nickel, on va finir là-dessus, Géry. Il est quasiment 13h. On vous encourage du coup à aller au studio dès cet après-midi, vous l'aurez compris. Et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour parler une nouvelle fois cinéma. Et dans 15 jours, c'est Mauvais Tour. Donc on vous mettra toutes les infos sur nos réseaux sociaux. On vous laisse en compagnie de RFI et on se dit à bientôt. Ciao.
Salut.
Ciao.